Vous écoutez Radio Campus 106.6 FM, www.campusil.com et en DAB+ sur la métropole lilloise. Toujours donc l'émission qui va se terminer à 18h. On a presque encore une heure, on va en profiter donc dans Quoi de Neuf pour présenter un thème bon, qu'on ne traite pas forcément tous les jours. On va parler de droits culturels dans l'enseignement et d'ouverture interculturelle aussi dans le milieu éducatif et dans les écoles, les universités, etc. Donc j'ai invité un spécialiste du genre qui s'appelle Bruno Duquesne. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Donc on va vous présenter, hein. Vous êtes professeur en sciences de l'éducation, c'est ça?
Oui, c'est ça. Oui.
Et vous avez réalisé une thèse, hein. On peut peut-être en parler rapidement, oui, pour qu'on donne un petit peu le contexte de vos recherches.
Oui. Donc le contexte de mes recherches se situe sur la question de l'expérience optimale, ou on appelle aussi expérience autotélique en enseignement. Donc en fait, qu'est-ce que l'expérience autotélique? On peut peut-être définir ce que c'est.
Ben, bien sûr.
Donc c'est en fait, elle est caractérisée grâce à des travaux donc dans le champ de la psychologie positive par plusieurs, je dirais, aspects, hein, notamment c'est se sentir en pleine immersion dans les activités que l'on a avec aussi parfois une altération du temps, une absence de préoccupation de soi, et finalement c'est l'expérience autotélique, c'est le plaisir que nous crée l'activité par elle-même. Que nous procure une activité, l'activité d'enseigner par elle-même.
Est-ce qu'elle crée des endomorphines?
Oui, c'est ça, oui, sans doute. Sans doute, le fait de transmettre ou de partager ou de répondre à des questions, des questionnements, ou d'éveiller peut-être aussi les étudiants sur quelques interrogations, questionnements ou notions. Oui, c'est intéressant. Oui,
ouais, donc il y a le plaisir de transmettre, le plaisir d'échanger, le plaisir peut-être d'avancer ensemble.
Oui, c'est ça, oui, c'est tout à fait cela. Autour de peut-être une histoire commune. Enfin, oui, parce que effectivement, comme j'enseigne en sciences d'éducation, j'ai devant moi des futurs professeurs et enseignants, professeurs des écoles ou peut-être en collège, mais voilà, oui, effectivement, il y a de cela, oui, il y a de cela. Partager aussi une expérience, hein, puisque j'ai été enseignant dans le secondaire avant d'être enseignant à l'université, donc voilà.
Donc on va parler de culture et d'interculture, oui. Aujourd'hui, avec notamment en termes d'accès à la culture, peut-être pour ce premier chapitre. Est-ce que l'accès à la culture est satisfaisant? Et alors, dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on peut améliorer et est-ce qu'on peut enseigner par rapport à ça, est-ce que les gens ont droit à la culture? Oui. Est-ce qu'on peut leur donner, comme il y a les déclarations de l'homme et du citoyen, est-ce qu'on a intégré le mot culture dedans?
Oui.
C'est pas encore fait, on va le faire ou...
Alors, en France, il y a déjà la loi NOTRe en 2015, hein, qui est la nouvelle organisation territoriale de la République, hein, qui, notamment dans son article 103, dit que la responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales, l'État dans le respect des droits culturels énoncés par la Convention sur la protection, la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005. Donc, ainsi, les parlementaires ont ainsi défini la responsabilité publique en matière culturelle est commune et fondée sur le référentiel du respect de la dignité humaine et des droits fondamentaux. Donc, à partir de 2015, il y a eu effectivement dans la loi NOTRe une volonté, je dirais, d'intégrer la culture, en fait, dans les enseignements et notamment dans l'éducation artistique et culturelle. Alors, à l'école. Et du coup, en fait, on peut donc parler là-dessus du terme de culture. Hein. Qu'est-ce que la culture? Qui recouvre en fait l'ensemble de traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social, et qu'elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les façons de vivre ensemble, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Alors ça, c'est selon la déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle de 2001.
Donc peut-être qu'on peut revenir à l'UNESCO qui est quand même un espace de réflexion et aussi qui incite non seulement à développer les projets culturels mais aussi à préserver le patrimoine culturel. C'est sans doute une institution, on va dire, internationale très importante qu'on ignore peut-être un peu trop.
Oui, c'est vrai qu'on l'ignore, mais c'est vrai qu'elle est aussi à la base de, au niveau de mon enseignement, puisque moi j'enseigne en sciences de l'éducation et puis je dispense d'un cours qui est de l'éducation comparée, en fait. Et on s'appuie aussi effectivement sur des études de l'UNESCO qui effectivement sont là pour mettre en exergue les différences et les similitudes, notamment dans le champ, différences et similitudes, notamment dans le champ, pas forcément que de l'éducation, hein, mais en termes culturels, hein, de société, de pays. Et l'idée n'est pas de comparer les uns à les autres dans une dimension évaluative en disant oui, notre système est meilleur que le vôtre, mais au contraire de mettre en exergue tout ce qui est différence et similitudes et peut-être de prendre les bonnes pratiques, peut-être éducatives ou les façons de faire. Enfin, quand je dis les prendre, c'est s'en inspirer, sans pour cela les faire nôtres, mais peut-être y réfléchir pour voir ce que l'on peut transformer dans nos façons de faire, d'éduquer.
Alors, c'est vrai que beaucoup de pays déposent des demandes à l'UNESCO, notamment dans le cadre du patrimoine immatériel de l'humanité, oui. Et que certains ont énormément, on va dire, de culture, entre guillemets, de culture locale, hein, préservée grâce à cela. Enfin, quand je dis préservée, c'est toujours dynamique, plus ou moins, en plus ou en moins, mais quand même avec un certain fléchage, voire même des contraintes, mais qui permettent aussi d'injecter des moyens par rapport à un projet de soutien à des pratiques et à des mémoires.
Exact. C'est un organisme effectivement qui effectivement défend ces dimensions. Effectivement, de tradition en fait et de patrimoine culturel de l'humanité. Oh. Et en effet.
Ici, on a par exemple le patrimoine du bassin minier, hein, l'ex-bassin minier, qui a été peut-être sauvé de. Moi, j'ai connu il y a 50 ans le moment où les mines fermaient.
Ouais.
Et donc, à partir de là, autant avant, on avait une documentation technique sur comment fonctionne la mine, comment on casse du charbon, enfin je résume. Et qu'après les 10 ans qui ont suivi la fermeture des mines, c'était comment on oublie tout ça, comment on fait table rase du passé, et comment on détruit même les documents qui servaient de base, même dans l'éducation, dans les écoles, les établissements scolaires. On a mis à la poubelle beaucoup, beaucoup de choses. Qui maintenant, bon, le peu qui en reste, on a peut-être sélectionné ce qui pouvait être encore vraiment, je veux dire, significatif, symbolique, et puis historique dans ce patrimoine-là. Mais ça a failli vraiment passer à la trappe. Et je vois bien que des gens dans la région se sont vraiment battus pour porter ce projet qui avait relativement pas forcément beaucoup de chances d'aboutir, mais qui a abouti grâce à la ténacité d'un certain nombre de personnes, d'élus.
Oui, puisqu'en fait, je pense que ça constitue le patrimoine commun de l'humanité et toute cette histoire au niveau du bassin minier, effectivement, c'est effectivement un point important en fait pour préserver aussi cette diversité culturelle, puisque la diversité culturelle, on peut dire qu'elle est pour le genre humain aussi nécessaire que la biodiversité dans l'ordre du vivant. Finalement, on peut dire que c'est pratiquement, on peut faire une analogie entre diversité culturelle pour le genre humain, comme la biodiversité, elle est pour l'ordre du vivant. C'est vraiment, et ça constitue effectivement un patrimoine, le patrimoine commun de l'humanité.
Après, il y a des choix politiques qui font qu'on va engager une préservation de tel ou tel type de culture locale ou de façon de vivre. Je vois la gastronomie française, par exemple, qui a intégré tout cela. Hein, c'est un exemple, mais il y en a plein comme ça. Et y a des pays qui se sont engouffrés dans ça. Je pense à la Chine, par exemple, où il y a énormément de demandes chaque année et des endroits qui sont préservés grâce à ça. Après, ça n'empêche pas, dans d'autres pays, des dégradations par des bandes armées qui vont détruire, saccager le peu de mémoire qui restait dans certains endroits. et c'est vraiment malheureux. Je sais pas si c'est, je pense peut-être à l'Afghanistan, ou, je sais pas, il y a des destructions massives de culture.
Ouais. Hein. Malheureusement, et c'est vrai que et cette diversité culturelle, comme tu le dis René, ça, elle se construit dans une relation dynamique entre effectivement les sociétés, les territoires de vie. Du coup, c'est vraiment proche en fait entre eux cela en fait. Et c'est là où, où effectivement on peut préserver cette diversité effectivement.
Alors, je vais revenir un petit peu aux enseignants. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont dans leur cursus de formation, par exemple, comme module, entre guillemets, hein, où ils s'intéressent à ces réflexions sur l'importance de la culture et aussi de l'interculturalité des échanges culturels.
On peut parler dans le cadre de la formation professionnelle des enseignants. Si je suis pas spécialiste de la formation professionnelle des enseignants, du coup, je vais pas vraiment répondre là-dessus, mais en tout cas, dans les pratiques enseignantes, il y a effectivement le fait que certains enseignants s'emparent en fait de ce développement de la diversité culturelle auprès de leurs élèves, mais plutôt dans des cadres de projets internationaux de type Erasmus ou Comenius en fait, et dont j'ai pas mal de collègues effectivement qui chaque année réalisent des projets de ce type, et l'idée c'est vraiment effectivement d'opérer une forme de décentration en fait chez les élèves en fait de leur propre culture en fait occidentale ou française finalement, pour aller découvrir des mœurs, des modes de vie, des façons de vivre en fait hein, une culture hein, vraiment, enfin un tas d'éléments. Ça peut être aussi des habitudes vestimentaires, des habitudes de la gastronomie, complètement différents, des pays, donc dans des pays effectivement différents. Et l'idée, c'est vraiment effectivement que les élèves soient confrontés à l'altérité, hein, à ce qui est différent d'eux, hein, justement, pour les confronter aussi à leur propre humanité. Et généralement, en fait, les témoignages qu'on a des enseignants, parce que j'ai effectivement dans mes enseignants, certains m'ont expliqué que l'expérience optimale qu'ils vivaient, c'était précisément lors de préparations ou de voyages internationaux, de voyages culturels Erasmus. Et vraiment, ce qui ressort de cela, c'est chez les élèves, en fait, c'est qu'ils sont véritablement transformés en fait à suite de ces voyages en fait. Et surtout en fait, ce qui marque les enseignants que j'ai interrogés, c'est l'épanouissement en fait, la façon dont ces élèves reviennent épanouis en fait et ouverts en fait, avec des questionnements autres qu'ils avaient pu avoir avant. Donc en fait, oui, pas forcément la formation professionnelle d'enseignant, mais par rapport à des pratiques d'enseignement ou des pratiques qui sont le montage de projets, d'échanges internationaux et dans le cadre des projets Comenius et Erasmus, là oui, effectivement, il y a cette volonté de promouvoir la diversité culturelle. Alors, dans la formation des enseignants, au niveau des sciences de l'éducation, hein, si je reprends les sciences de l'éducation, en fait, on pourrait dire que le module que j'anime, qui est en fait de parler de l'éducation comparée, donc c'est un enseignement au choix, en fait, c'est un enseignement qu'on appelle de spécialité, pour les étudiants. Et là, l'éducation comparée, on peut dire que c'est en fait une discipline qui est interdisciplinaire, déjà, de base, en fait. Et c'est une école de l'ouverture de l'autre. En fait, c'est une école d'ouverture à l'autre, de la tolérance, du respect des différences. En fait, elle permet à l'individu de s'enrichir par la rencontre de l'autre, de mieux se connaître et d'avoir en fait dans le but d'avoir des relations sociales harmonieuses en fait. Donc un enseignement d'éducation comparée est assez, je dirais, indispensable dans la formation des enseignants, parce que c'est une ouverture sur les cultures, une réflexion sur l'interculturel. C'est aussi une forme de dépassement de soi-même, où on abandonne un peu ce côté, ce qu'on appelle l'ethnocentrisme, hein, où tout est centré sur notre propre culture et où on est dans l'ouverture au monde. En fait, voilà. dans la formation des enseignants, tout au moins ici en licence sciences de l'éducation, en fait, à l'Université de Lille, c'est effectivement dans ce cours d'éducation comparée où on peut effectivement s'ouvrir à cela.
Alors, c'est vrai que d'un côté, c'est incroyablement étonnant d'aller dans des pays très différents pour constater justement que les repères changent complètement, voir que le centre du monde se déplace par rapport aux cartes même. Mmh. Et donc, il y a un aspect mis en, pas en doute, hein, mais en perspective, et voir si le bien fondé habituel de ce qu'on considère comme des choses normales, on va dire, là il y a un déplacement quelque part du centre de gravité.
C'est ça, il y a un déplacement. C'est un déplacement où on appelle ça chez nous la décentration, en fait, la notion de décentration, où finalement chacun est confronté à l'autre dans sa différence culturelle, religieuse même, sociale, ethnique. Et c'est cette rencontre qui parfois peut être sereine, enrichissante, mais qui parfois peut être déstabilisante, ou aussi même, parfois même, elle peut être au contraire parfois conflictuelle et violente. Et tu voyais, c'est vraiment en fait dans ces deux rencontres qui peuvent être l'une ou l'autre en fait. C'est vrai que la plupart du temps elle est sereine et enrichissante. Ouais. Et puis mais parfois elle peut être effectivement conflictuelle et violente parce que on va peut-être remettre en perspective nos certitudes, la certitude. Certainement. La certitude par rapport à ce qu'on appelle notre ethnocentrisme. On est tous ethnocentriques. C'est-à-dire qu'en fait, on a tous été éduqués d'une certaine manière avec des mœurs, des façons de vivre. Et finalement, lorsqu'on va effectivement à la rencontre, et puis moi, je pense aussi aux émissions sur France 2, dans lesquelles parfois il y a une immersion dans des ethnies. Je sais plus c'est que l'émission, mais j'ai trouvé ça très très bien en fait, où vraiment les gens sont confrontés à des modes de vie, à des différences culturelles. Elles peuvent être aussi religieuses, sociales.
Alors justement, ces différences, quand on va dans un pays étranger, on va dire en général, on les admet, on essaie déjà de les analyser, de voir en quoi elles consistent, et peut-être après si elles ont un bien fondé, peut-être même local, hein, ça. Il y a des raisons parfois, à des façons de procéder, des coutumes.
Oui, voilà. Alors en fait, on est effectivement plus dans la compréhension, en fait. Enfin, c'est toujours ce que on est. L'éducation comparée, enfin tout le monde, la formation des enseignants, où j'explique aux enseignants qu'ils ont besoin d'être dans la compréhension et donc de faire un effort de non-jugement, en fait, de suspension de leur propre culture pour pouvoir observer, regarder ce qui s'y passe, de comprendre les liens aussi éventuellement avec l'histoire politique et politique du pays en fait, hein, et tout ce qui s'est passé en fait en fait historique, et du coup c'est là où ça devient vraiment intéressant et effectivement où il y a vraiment un décentrement en fait, une forme de, on se décentre totalement en fait de notre propre culture, de la façon dont on fonctionne chaque jour, avec certaines, et heureusement, avec certaines certitudes qui nous permettent un peu quand même de vivre un peu sereinement chaque jour. Mais quand on va dans ces autres pays, on se dit, mais on doit se poser toutes ces questions-là, qui sont d'ordre effectivement historique, social,
sociétal,
effectivement, tous les événements qui ont pu effectivement arriver dans ces sociétés et qui ont donc en fait fait évoluer sans doute après les lois, les législations, les façons de vivre, la législation dans ses propres pays en fait. Et c'est vraiment, effectivement, on est vraiment confronté effectivement à une histoire différente de la nôtre.
Alors là, actuellement, se pose quand même la question de, on va dire, des cultures qui sont en France, d'une manière multiple.
Oui, c'est très intéressant.
Qui parfois cohabitent, ont parfois du mal à échanger et à se comprendre, alors que quand on va dans ces pays-là, ça paraît beaucoup plus simple, en fait. Donc,
oui, j'ai analysé ça, effectivement. J'ai analysé un petit peu, mais il y a des travaux de recherche qui parlent de cela. Et là, je pense que l'origine vient aussi de notre histoire, en fait. Et ça vient même, en fait, selon certains chercheurs, et de travaux de chercheurs, ça provient même en fait, qu'on hérite en fait de la Révolution française, et on hérite aussi d'un État, en fait, finalement, qui semble vouloir, en fait, imposer la laïcité. Mais c'est bien, la laïcité, ça ne veut pas dire ne pas croire ou pas croire, mais finalement, un État de raison, finalement, qui se coupe, en fait, des composantes, des racines, des traditions qui peuvent être sentimentales, affectives. Et finalement, on ressent, en fait, que cet État vient tenter d'être en surplomb, en fait, au-delà de tout ça, en disant, mais c'est la raison qui compte, c'est pas l'émotion. Enfin, on est débat sur entre la raison et l'émotion. Ou finalement, peut-être que le discours devrait être d'infléchir un peu cela, pour prendre en compte, justement, toute cette dimension du vécu, en fait, des individus à travers leur propre culture. Et effectivement, on est confronté aujourd'hui avec cette cohabitation nécessaire, mais...
Donc, justement, la question, par exemple, des villes où il y a beaucoup de gens étrangers ou d'origine étrangère, ça devrait être des villes très riches en échange et en partage, en mise en commun, peut-être, de choses qui sont différentes, mais qui se complètent très bien à certains moments. Oui. Pourquoi on n'arrive pas à capitaliser ça ?
Alors, c'est une question très, très intéressante. Pourquoi on ne peut pas... en fait, je pense que là-dessus, je pense que notre État, en fait, la France, devrait aussi s'appuyer davantage sur laisser plus de marge à la société civile, en fait. Quand je dis société civile, c'est comment dire ? C'est mettre l'accent non sur le rejet du religieux dans la sphère publique, mais au contraire, en fait, que l'État ait un devoir d'impartialité envers toutes les communautés, l'État ou les villes. Voilà. Enfin, si on parle, moi je me situe au niveau de l'État là, mais même là tu parles au niveau des villes, mais moi je me parle au niveau de l'État. On se rend compte quand même que dans des propos même aujourd'hui d'hommes politiques, encore aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, le numéro 2 du gouvernement a sorti quand même quelque chose d'incroyable. C'est qu'il était choqué de voir dans certains hypermarchés des rayons de produits communautaires.
Là, je pense quand même que c'est pas nouveau.
Non, non.
Enfin, moi, j'en vois souvent. Enfin,
oui. Mais j'ai trouvé ça aberrant, en fait, qu'ils disent cela, parce qu'en fait, c'est plutôt un repérage, tout simplement. Et justement, comme on est un peuple cosmopolite, enfin de pluralité et de pluralisme culturel, justement, en fait, chacun peut se repérer. En fait, c'est une façon de se repérer. C'est pas une volonté de promouvoir plus une communauté qu'une autre, en fait. Donc moi j'ai le sentiment de ça, mais maintenant on peut en discuter. Mais en tout cas, ce que je pense, c'est que au lieu de, je pense que une forme de, comment dire, on est sur la conscience d'une élite que j'appelle occidentalisée, de ses représentations, et on voudrait convertir toutes les personnes des différentes communautés à une seule façon, une forme de suprématie qui serait au-dessus de toutes les religions, effectivement. Enfin, et moi, je crois que c'est pas possible.
Mais
il serait peut-être plus sérieux.
Je
pense qu'en fait, il serait plus sérieux peut-être de faire en sorte que on explore toutes les philosophies et dans laquelle la tolérance devrait être beaucoup plus présente, en fait, envers toutes les religions. Mais bon, ça c'est mon avis, en fait. Et on ne devrait pas. Voilà, c'est plutôt sur le. C'est sur le partage de certaines valeurs qui partent d'enracinements divers, en fait, que peut-être émerger une véritable culture de l'échange, du dialogue et du respect mutuel. En fait, voilà. Moi, voilà ce que je pense.
Après, c'est vrai que la France n'est pas un pays de juxtaposition de communautés. C'est pas un pays communautaire. Hein.
Non, mais...
Par contre, il y a des pays, je pense à la Chine par exemple, où il y a 56 ethnies déjà.
Oui.
Et donc, il y a par exemple des quartiers musulmans où là, on mange halal, on ne boit pas d'alcool, etc. C'est la vie normale des quartiers. Peut-être à Roubaix ou à Tourcoing, alors pour le coup, oui. Gérard Darmanin, il doit bien connaître des rues où il n'y a pas de boucherie normale. Hein. Ça me paraît étonnant sa façon de réagir, alors qu'il doit très bien voir ça au quotidien,
oui,
dans les endroits où il vit.
Mais on s'aperçoit, on s'aperçoit que quand même, en fait, en France, on a des quartiers, on a des territoires, on a des zones en fait où qui vivent selon leur origine, leur tradition, leurs mœurs, etc. et qui réimplantent en fait quelque part leur tradition en fait, leurs coutumes et leur façon de vivre.
En Angleterre, c'est vraiment le cas. Il y a des communautés, les Rastas, tout ça, là, les Jamaïcains, quoi.
À Paris, il y a des quartiers
Mais en France, c'est plutôt une autre approche. C'est plutôt qu'on les a ghettoisés quelque part. Et maintenant, on commence à le regretter. Alors que là-bas, c'est plutôt des gens qui venaient d'Inde ou de je ne sais pas, qui se sont mis ensemble parce que c'est leur façon de vivre. Enfin, en plus, il y a... Donc là... En Angleterre, il y a une approche de vie de communauté. En France, c'est pas du tout ça. On n'est pas dans une république de communauté.
Oui, mais je pense qu'effectivement, je crois que c'est pour ça que peut-être, effectivement, enfin moi, c'est une des réflexions que c'est pas moi qui, je suis pas seul à l'avoir, hein, mais d'autres chercheurs notamment là-dessus, où finalement, même si toute société ou toute personne a ses limites ou un coefficient d'harmonie avec d'autres... d'autres groupes ou d'autres, je dirais, communautés. On n'est pas forcément appelé à être dans les mêmes intimités interculturelles, mais parfois, il y a des fois des tensions créatrices entre le fait d'accepter la diversité culturelle, en fait, ou d'être confronté à la diversité culturelle. Qui peuvent faire émerger, une forme de dynamisme de création, pas forcément, qui peut être interculturel, mais plutôt où finalement on va finir par accepter les, et je répète, hein, être dans la tolérance et accepter les différences de chacun pour finalement bien le vivre ensemble.
Alors,
et ça éviterait effectivement les tensions. Mais je pense que les formes, l'État aussi a un rôle à jouer.
Mais justement, l'État, il faut voir qui est à la tête de l'État d'une manière générale.
Oui.
Je pense par exemple, la France, c'est le pays qui a inventé le maître étalon, par exemple, avec Napoléon.
Oui.
Ça a été, je pense, à ce moment-là, qu'il y a eu des normes qui sont installées. Même le code civil, ces choses-là, ça a normalisé les pratiques.
Ouais.
Après, il y a eu les hussards noirs de la République qui ont normalisé quelque part l'enseignement et notamment l'usage du français, etc., des langues locales qu'on a essayé de faire disparaître, pas seulement les langues, mais les coutumes, les danses, les gens, enfin, tout cet environnement-là. Donc, quelque part, on est dans un État qui a tendance à normaliser ça s'est relativement bien passé jusqu'au moment où d'autres populations sont venues sur plusieurs, en fait, dans plusieurs conditions différentes. Donc il y a les gens qui sont venus parce qu'ils partageaient le projet français.
Oui.
Ça peut exister. Il y a des gens qui sont venus par nécessité parce qu'ils n'avaient plus à manger chez eux. Il y a des gens qui sont réfugiés politiquement mais qui ont gardé à l'esprit la mémoire de leurs ancêtres en termes culturels. Donc, en fait, quand on parle de gens étrangers et de culture, de gens qui sont étrangers ou qui étaient, enfin, même s'ils ont été naturalisés depuis, il y a plusieurs types de personnes. Je veux dire que ces personnes-là ne réagissent pas de la même manière à un conditionnement habituel français à remettre tout dans la norme de ce qu'on imagine étant.
Oui.
Pour bien vivre ensemble, il faut être le plus proche possible dans les façons d'exister.
Oui. Et... Oui, de ce que tu dis. Oui, en effet. Enfin, je pense qu'effectivement, c'est un peu comment on pourrait créer, comment respecter cette diversité culturelle tout en créant une forme d'unité et de vivre ensemble entre les ces personnes-là, en fait, qui viennent avec leur, leur habitude et leur coutume et, leur habitus, dirais-je, si on prend le terme de Bourdieu, mais voilà, c'est cela, en fait. C'est comment, comment effectivement, que, se respecter les uns les autres dans nos différences, culturelles, nos modes de vie, mm-hmm. même nos croyances religieuses, de tout, en fait. Et c'est là où, où on peut... Je crois que c'est à chacun, en fait, à s'emparer de cela, en fait. Chacun à agir et chaque citoyen, en fait, finalement, à pouvoir s'emparer de cela. Et même chaque enseignant, en fait, au-delà du principe de laïcité, on doit aussi prendre en compte la question des droits culturels, la question de la diversité culturelle, les déclarations des droits culturels et des droits culturels de 2007 de Fribourg, et puis aussi la déclaration de la diversité culturelle et de l'UNESCO de 2001. En fait, c'est s'appuyer aussi sur des textes fondateurs qui permettent, en fait, de pouvoir aussi avoir un autre discours, dirais-je, qui est aujourd'hui un discours où, relié à la Constitution française, en fait, relié au fait que, voilà, et là, on se rend compte que dans d'autres pays, il n'y a pas les mêmes soucis, parce qu'ils ne sont pas basés sur la même Constitution, en fait, française. Donc c'est vrai, c'est presque, en fait, un amendement à la Constitution qu'il faudrait avoir. À certains moments, en fait, si on veut avoir comme objectif de vivre harmonieusement les uns avec les autres, on va peut-être être un moment amené à devoir revoir notre constitution.
Alors justement, là, c'est une histoire de contrat, peut-être, ouais, aussi. Hein, oui. C'est-à-dire, on parle beaucoup des droits de l'homme, on pourrait aussi mettre dans la balance des devoirs, ouais, les droits et les devoirs, comment on vit dans une société qu'on imagine la plus harmonieuse possible après un vrai échange dans la population, hein, voilà, qu'est-ce qu'on prend, voilà, qu'est-ce qu'on on se met d'accord autour d'une table, et après tous ceux qui viennent, les nouveaux arrivants, on va dire, hein, est-ce qu'ils signent ou pas, quoi.
Oui,
peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire de ce coup-là. Parce que là, effectivement, il y a pour les étrangers qui viennent en France des choses qui sont faites, hein, le contrat citoyen, enfin des choses comme ça existe.
Oui,
hein.
Oui.
Mais au-delà de ça, voilà, les droits, les devoirs, est-ce que ça, c'est quelque chose dont on débat suffisamment? Parce que je vois beaucoup d'associations droits de l'homme, etc., mais devoirs de l'homme, j'en vois pas beaucoup.
Oui, d'accord. Oui. En fait, c'est vrai qu'on peut recentrer aussi la question sur l'éducation, en fait,
mm-hmm.
et évidemment, et en fait, dans l'école de la République, on peut aussi effectivement, et c'est très très, c'est aussi important, en fait, que les droits, en fait, les devoirs, le respect des règles institutionnelles, le respect des institutions. Je pense que c'est fondamental, mais ce sont des choses en tension, en fait. Ce sont des choses en tension. D'un côté, on est sur la liberté individuelle, la liberté d'être ce que l'on est, la liberté d'être. On est un être de culture, du coup, qui vient avec ses traditions et ses particularités. Et puis, on est aussi, effectivement, un être qui fait partie d'une société qui doit respecter des droits. Donc, ce sont des choses en tension, en fait, que chacun, effectivement, devrait apprendre et expliquer, ou tout au moins, chaque enseignant devrait expliquer à chaque élève, en fait, que l'on fait partie d'une société où il y a des règles, en fait, de fonctionnement et qu'on doit les respecter.
Mmh.
C'est tout aussi important que les droits culturels et que le droit d'être...
Donc je me demande à quel moment il y a eu un infléchissement, d'une certaine manière, en termes de droit.
Oui.
Est-ce que le fait qu'à l'école primaire, hein, il n'y ait plus de devoirs obligatoires, a pu faire croire qu'on n'avait plus du tout de devoirs dans la société par la suite?
Par la suite, c'est-à-dire après l'école?
En état adulte, oui.
Ouais, ah oui, oui. Alors, il y a effectivement en éducation, il y a de toute façon des livres qui s'appellent l'éducation des adultes, parce que l'éducation ne s'arrête pas. En fait, quand on sort de l'école, hein, l'éducation, c'est toute la vie, hein, c'est tout au long de la vie. On est des êtres qui apprenons constamment, qui se développons constamment, qui évoluons constamment au contact des questionnements que l'on a, en fait. Et du coup, on n'est pas... c'est pas terminé quand on sort de l'école ou même quand on sort étudiant, en fait. C'est complètement faux. Et ça, c'est un discours qu'on devrait avoir partout, en fait. Oui. Que c'est tout au long de la vie, en fait, qu'on progresse, qu'on évolue, qu'on grandit, qu'on apprend, en fait, qu'on comprend.
Qu'on transmet, après.
Qu'on transmet, qu'on comprend, en fait, les choses. Oui. Et c'est vraiment
quelque chose qui s'arrête. Parfois, en transmettant, on comprend mieux les choses.
Oui.
C'est étonnant. Hein.
Oui, que ça ne s'arrête jamais et que c'est vrai ça ne s'arrête jamais, en fait. Et c'est vraiment un élément fondamental, en fait, qu'on devrait...
Ça, en fait, ça fait partie, d'une certaine manière, hein, de la qualité de vie aussi. C'est-à-dire quand oui. on a toujours la capacité à apprendre, à se remettre en cause, à essayer de comprendre des choses qui nous paraissent obscures, on a un vrai plaisir parfois à se dépasser.
Oui, oui. Oui, d'ailleurs, le dépassement de soi, effectivement, ou la compréhension de soi et compréhension de l'autre aussi font partie aussi de notions que j'aborde dans mon cours d'éducation comparée. Mais effectivement, c'est toujours ce dépassement de soi, mais un dépassement de soi qui nous permet de peut-être de remettre en cause certaines de nos certitudes à un moment. Et parce qu'on est confronté à de nouvelles informations, de nouveaux événements, un nouvel environnement peut-être, un nouveau contexte, et qui font que on a ce besoin de se réinterroger, d'avoir ce retour réflexif aussi sur est-ce que je suis un bon citoyen, responsable aussi, parce qu'on parle de responsabilité, mais oui, il y a besoin. Mmh. Être responsable, n'est-ce pas être aussi réflexif par rapport à soi, par rapport à la façon dont les choses aussi autour de nous évoluent.
Alors, justement, la condition dans laquelle on est, j'allais dire le conditionnement, pour résumer, est-ce qu'il nous fait pas... est-ce qu'il ne nous donne pas la capacité de prendre de la hauteur sur nos pratiques habituelles et sur notre façon de vivre? Est-ce qu'on n'est pas trop justement mis dans un certain moule de ce qu'on voudrait nous faire qu'on soit un bon consommateur, etc. Il arrive un moment, non seulement... Ouais. On ne comprend plus pourquoi on consomme parfois, on le fait presque mécaniquement. Après, on consomme des trucs qui ont parfois aucun intérêt, et c'est bien temps de faire un peu le point sur ce qu'on consomme. Ouais. Et puis il y a aussi, à la fin de tout ça, c'est ce qui va en rester pour les futures générations, quoi. La planète, elle ne tiendra plus à ce train-là très longtemps.
Oui. Oui, c'est vrai que c'est toute une réflexion, finalement. Effectivement, on aborde peut-être la question de ce qu'on appellerait peut-être une forme de satisfaction de vie à partir de besoins d'éléments extrinsèques à notre vie. Et finalement, là, dans mes travaux de thèse, je parle beaucoup de satisfaction intrinsèque, en fait. Et finalement, on fait les choses pour le plaisir que ça nous procure en soi, en fait, et pour nous-mêmes, en fait. Et au-delà de biens matériels que l'on pourrait se procurer, etc. Donc, ça, c'est vraiment un champ très important, je crois, et intéressant, et qui se retrouve très souvent dans la population des enseignants, où on a ce besoin constant d'apprendre, de comprendre les choses, de lire, de découvrir, en fait.
Et puis de comprendre l'autre aussi, c'est ça l'empathie, nécessaire.
Et être effectivement dans cette dimension d'empathie vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis du monde, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la planète, hein, puisqu'on parle aussi d'environnement. Donc en fait, c'est vrai que c'est cette dimension d'empathie qui effectivement devrait être très très présente.
Alors, est-ce que justement l'enseignant, enfin l'image de l'enseignant, ne souffre pas du fait que cette empathie normale et nécessaire, elle soit remplacée au fil des textes et de l'administration, on va dire, par des gens chargés de normaliser à tout prix?
Ouais. Une forme de normalisation, en fait, oui, puisqu'aujourd'hui, on parle aussi de new management public dans les organisations éducatives, et notamment scolaires. Du coup, en fait, toutes ces notions, on parle beaucoup de rationalisation, d'économie dans les structures éducatives. Donc, c'est vrai qu'on est moins au service, peut-être, on est peut-être moins centré sur le développement de la personne, ou le développement, ou l'évolution de soi, finalement, ou l'évolution de l'élève, avant tout, puisque c'est un enseignant n'agit jamais pour soi, il agit toujours vis-à-vis des autres. Et ça, c'est assez fondamental, et assez extraordinaire d'ailleurs. Penser qu'on a une activité où c'est jamais C'est jamais soi sans les autres, en fait. Quand on enseigne, hein, c'est toujours pour quelqu'un. Donc, en fait, il y a aussi cet altruisme, en fait, très présent dans le métier d'enseignant et qui, effectivement, perd un peu sa place du fait de ces objectifs de normalisation, de rationalisation et puis aussi du fait des nouvelles technologies, l'utilisation des nouvelles technologies de l'information, de la communication. Et encore plus aujourd'hui dans cette mise à distance, parce que dans ma thèse, ce que j'ai pu observer également, c'est que à 70% des enseignants, quand je leur demande de me raconter une expérience optimale, ils me disent que c'est en cours dans l'interaction face aux élèves qu'ils l'éprouvent. C'est quand ils se regardent, quand ils se questionnent, quand ils essaient d'expliquer une notion aux élèves et qu'ils voient les yeux briller en face d'eux. Et du coup, c'est fondamental, en fait. Et c'est ce qui fait l'essentiel de la description de leur expérience optimale, en fait. Cette lumière dans les yeux. Et voilà, et je crois que c'est peut-être pour ça aussi que ça reste le plus beau métier du monde.
Et oui, et ça, c'est la meilleure des nourritures, hein, l'appétit dans le regard de l'autre.
Exactement. Il y a l'appétit, l'envie de savoir, de connaître, d'apprendre, et cette joie d'apprendre et de découvrir qu'on vient peut-être d'ouvrir une petite porte, une petite lumière chez l'autre, en fait, ou chez l'élève ou chez l'étudiant.
Voilà. Alors, donc, on a bien compris ces principes, d'une certaine manière, qui amènent à mieux vivre l'enseignement.
Oui.
L'éducation, pour des éducateurs, pour des enseignants, oui. Il y a évidemment la notion de... peut-être de nécessité d'exister, d'être et de faire là ce travail, on va dire, d'une certaine manière. Et puis aussi les conditions de pouvoir réaliser ça avec un minimum d'autonomie et de responsabilisation.
Oui.
Et là, on sent bien que... Bon, je vais pas prendre d'exemple récent que j'ai, hein, t'imagines, mais quelque part, pour la moindre initiative, il peut y avoir des plaintes, voilà, etc. Ce manque de confiance nécessaire à l'exercice d'une pédagogie, on ressent. Alors, il y a les boucliers, les parapluies qui s'ouvrent par l'administration.
Ouais.
Il y a les parents, ou il y a, je sais pas, des intervenants très extérieurs qui viennent porter plainte à la place des parents qui seraient éventuellement concernés. Enfin, on voit tout. Donc là, on est quand même dans un moment où on peut se poser la question de est-ce que enseigner est encore possible? Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un contrat plus clair entre l'enseignant et l'enseigné, et puis les gens qui le représentent, et puis un contrat social à remettre en place?
C'est une bonne proposition. Moi, je suis partant pour cela, hein, parce que déjà la place de l'enseignant, on a vu comment elle a pu évoluer ces 30 ou 40 dernières années. Hein. J'ai entendu d'ailleurs il y a quelques mois dans le cadre de, en fait, lors de, on va dire du confinement, j'ai entendu des parents d'élèves qui parfois étaient contents de certains profs qui envoyaient parfois des devoirs, qui faisaient des visios, qui arrivaient à faire leurs cours par visioconférence, qui arrivaient à quand même maintenir les élèves dans le travail. Et donc là, ils étaient contents, mais et d'autres par contre professeurs qui soit n'avaient pas les outils, soit n'avaient pas le temps, soit étaient dans des positions difficiles. Et je les ai encore entendus traiter de fainéants, en fait. Qu'on traite encore aujourd'hui, et les parents d'élèves sont aussi responsables, parfois, de la façon dont on peut considérer le métier d'enseignant. En France. Donc la place de l'enseignant en France est effectivement peut-être à revoir, en fait. Enfin, tout au moins, c'est le premier métier exercé en France, pratiquement 1 million de personnes, et peut-être effectivement qu'une société centrée sur avant tout le respect de ces acteurs sociaux que sont les enseignants, c'est fondamental. Dans toute la société. Donc ce contrat social, moi, je prends tout de suite.
Alors, ce qui est très cocasse, en fait, c'est que l'enseignant est a priori quelqu'un de laïque dans son exercice, mais qui doit avoir la foi en son métier.
Oui, laïque, mais qui doit effectivement avoir la foi en soi aussi.
Et en soi.
Qui doit avoir le sentiment, ce qu'on appelle le sentiment d'efficacité personnelle. Donc, c'est extrêmement important, parce que s'il commence à douter de ce qu'il est, de ce qu'il fait, de par rapport au nombre de parfois de remarques qu'il peut prendre qui viennent de gauche et de droite. Il y a ce sentiment d'efficacité personnelle qui est extrêmement important dans le métier, et puis aussi le sentiment d'efficacité collective, c'est-à-dire aussi cette solidarité avec ses collègues et avec et on a entendu aussi parfois des témoignages là, ces derniers jours sur le fait que des enseignants étaient particulièrement en souffrance parce qu'ils n'ont soutenu par leur administration. Et ça, c'est aussi un point très important qu'on pourrait revoir. On a besoin d'une organisation, d'une administration, je dirais, de type care. Quand je dis care, c'est pour prendre soin de ses enseignants. Et non, au contraire, de les mettre à égalité avec leurs élèves. Et ça, ça peut être dramatique, en fait.
Mais c'est une dérive qui existe depuis plusieurs décennies.
Oui. Oui.
Donc, quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand ça ne marchera plus du tout?
On pense quand on aura d'autres dirigeants politiques.
Oui, mais je pense qu'ils vont toujours avoir les mêmes technocrates qui vont faire n'importe quoi derrière.
Alors, peut-être qu'on aura des dirigeants politiques dans l'avenir qui soient universitaires. Ça pourrait changer. On peut espérer.
Bon, enfin, peut-être, oui. Après, je vois parfois l'État qui s'en remet à des enseignants pour créer de nouvelles normes ou de nouveaux... Hein. Souvent, ce n'est pas forcément les gens les plus rustiques dans leur truc. Et finalement, ils théorisent trop et on arrive à avoir des choses inapplicables sur le terrain. Quoi. Donc,
alors,
voire même un verbiage qui est complètement incompréhensible.
Alors, tout à fait. D'où, effectivement... Je pense, effectivement, alors ça c'est intéressant, d'où cette importance en fait de rester pragmatique en fait, et peut-être en fait d'apporter des éléments qui feraient évoluer en fait tout au moins ces questionnements de la place éventuellement de l'enseignant dans la société. Dans certaines autres sociétés, l'enseignant c'est des superstars. Notamment dans les pays asiatiques. Donc voilà quoi. Donc c'est bien quelque chose qui est impulsé.
Alors en même temps,
impulsé
pourquoi ce sont des superstars? Parce que pour l'instant, il y a l'idée que être enseigné, ça sert à quelque chose et que ça peut vraiment améliorer
la
personne dans son évolution et son accès mais aussi globalement la société. J'ai l'impression que là, on n'a pas en France, on a perdu un petit peu de vue l'importance d'enseigner, d'être enseigné et jusqu'où on peut porter ces jeunes qui sont parfois en détresse pour des raisons sociales ou économiques, etc. Je veux dire, comment on peut redonner une foi laïque à ces jeunes en détresse?
C'est une question... C'est intéressant, je ne sais pas si je vais y répondre, mais de ce que j'en pense, fondamentalement, en fait, on peut penser que l'évolution de soi, au-delà de tout simplement... en fait, c'est donner du sens, en fait. Je crois que c'est vraiment ça, c'est donner du sens. Donner du sens à la compréhension de soi, des autres, du monde, dans lequel on est, des difficultés en fait de ce monde aussi, des urgences aussi du monde qui peuvent être des urgences de type climatique, finalement l'urgence ou la priorité au vivant aussi, le vivant comme source de comme chose fondamentale, comme qui est fait, le vivant ou la personne humaine ou la dignité humaine qui est fondamentale, qui sont des choses qui sont essentielles ou première, en fait, comme valeur, je dirais, universelle, quelle que soit la religion, quelle que soit la culture. Finalement, c'est retrouver aussi un peu d'émotion, d'affectivité dans nos décisions. Pas seulement de la rationalité, mais prendre en compte aussi toute cette dimension émotionnelle, affective, qui pourrait peut-être nous aider à avancer peut-être dans ce sens-là, et à cheminer, mais voilà.
Ben voilà, soyons nombreux à défendre ces beaux principes. Merci beaucoup Bruno Duquesne pour cette réflexion.
Je t'en prie, merci René.
J'allais dire presque à brûle pour point.
Merci pour cet échange, effectivement, bâton rompu, c'était très bien.
Espérons que d'autres enfin, des auditeurs s'empareront de la question là où ils peuvent pour faire passer un peu le message de ce que tu as bien défini.
Oui, je souhaite beaucoup de courage à tous les enseignants qui vont devoir, dans les semaines qui suivent, effectivement, s'emparer de questionnements pour effectivement lutter contre toute forme de... On parle de radicalisme ou de radicalisation ou tout au moins et faire valoir les valeurs de la République et de la démocratie en France. Mais voilà.
Voilà, bah, je pense qu'on devrait y arriver. Soyons solidaires.
J'espère.
Merci, grand merci.
Merci René, au revoir.
Vous écoutez Radio Campus 106.6 FM, donc l'émission Quoi de neuf est terminée pour aujourd'hui. On a beaucoup parlé, peut-être, je ne sais pas si c'est trop, mais en tout cas moi j'aime bien. Alors si vous aimez bien aussi, et si vous êtes encore là, c'est peut-être justement d'ailleurs parce que vous aimez ça. Mais dans quelques instants, on va parler de bande dessinée avec Patricia Bassama. Et après, bien, on va entrer peut-être dans des champs sociétaux, on va dire, de réflexion sur comment le monde fonctionne et comment on peut éventuellement l'améliorer, savoir par quel bout prendre les choses. Ce sera dans l'émission. Donc l'heure de le mettre à 18h30 jusqu'à 20h. Excellente soirée. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures radiophoniques. Salut, salut.